Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma. Et aujourd'hui, nous allons parler de 6 films. Et sur ces 6 films, il y aura 4 réalisatrices, Elizabeth Banks, Joanna Hogg, Emmanuel Nico et Araceli Lemos. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez chacun 2 films.
Oui, moi j'ai 2 films, alors assez confidentiels, hein, donc Holy Am I et puis L'Éden.
Et quant à toi, Guillaume, tu as vu le blockbuster.
Oui, alors réalisé non pas par un mais 2 hommes pour le coup, 65, de Scott Beck et Brian Woods. Et donc The Eternal Daughter de Joanna Hogg.
Et puis moi j'ai vu Dalva d'Emmanuel Nico et ce sera l'occasion d'écouter la réalisatrice qui nous parlera de son premier film plutôt remarquable. Mais nous allons commencer avec un ours qui sniffe de la cocaïne et qui sème la panique. Aimé Marine en grande forme, c'est Crazy Bear.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Un ours qui est défoncé à la cocaïne. Shooté à la coque !
En 1985, le trafiquant de drogue Andrew Thornton est retrouvé mort près de Knoxville après qu'il ait sauté d'un petit avion qui transportait une grosse cargaison de cocaïne. Il aurait donc jeté les paquets de drogue avant de sauter lui-même, mais peut-être, sous l'emprise de quelques stupéfiants, il n'aurait pas eu la présence d'esprit d'ouvrir son parachute et serait décédé. Un ours brun, animal déjà réputé pour être de nature plutôt dangereuse, serait tombé sur la trentaine de kilos largués au-dessus de son habitat naturel, à savoir la forêt nationale de Chattahoochee-Oconee, dans l'état de Georgie. Et l'ours serait mort d'une overdose après en avoir ingéré une petite quantité, de quelques grammes seulement, ce qui nous laisse imaginer qu'il n'aurait pas pu être ni trader, ni DJ. La fin étrange de cette histoire, c'est quand même que l'on a empaillé ce pauvre animal mort dans d'atroces souffrances afin que sa dépouille soit visible dans un musée de l'Office national des forêts. Cette histoire, incroyable mais vraie, est aujourd'hui le sujet d'un film, un film au croisement des genres, puisque Cocaine Bear, renommé Crazy Bear en France, est à la fois un film d'action, un film d'horreur et une comédie. Afin de packager cette histoire pour le grand public, on l'a enrobée d'un scénario un peu prétexte, un peu cliché. C'est l'histoire de Didi, une préadolescente qui décide de sécher les cours pour aller jusqu'aux chutes d'eau interdites avec son jeune ami. Or, dans l'appellation « chute d'eau interdite », il y a le mot « interdit », ce qui laisse présager de gros problèmes. En effet, ils vont tomber sur un paquet de cocaïne égaré par un trafiquant et en l'ouvrant, les deux enfants vont provoquer l'ire d'une ours noire en manque qui a déjà goûté à la poudre et qui va se mettre à les pourchasser sans relâche, rendue encore plus puissante et plus agressive par l'ingestion de drogue.
Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel aujourd'hui à Knoxville, au Tennessee.
Ils en ont largué plein d'autres par là, quelque part.
Je recherche ma fille. La forêt est un endroit dangereux.
Hé, Henri, regarde ça. Une bête a dû le manger. Un cerf, peut-être.
Une cargaison de coke s'est volatilisée. Je veux que vous la retrouviez.
Non, 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 bouge pas ça, bouge pas ça.
Attendons de voir quel effet ça aura sur lui.
Aux commandes de cette comédie que les frères Cohen auraient pu réaliser, on rencontre notamment des gardes-forêts peu zélés, des trafiquants de drogue prêts à tout et des délinquants au style vestimentaire soigné. On retrouve Elizabeth Banks, ce qui est une surprise. Pour rappel, elle est avant tout une comédienne qui fut révélée par Apatow. Elle tient un rôle récurrent dans la saga Hunger Games et elle a également joué dans Love and Mercy le rôle de l'épouse de Brian Wilson des Beach Boys. Elizabeth Banks a ensuite aiguisé sa caméra en réalisant Pitch Perfect 2. Et ainsi que le remake de Drôle de Dame, un film pas transcendant, mais qui lui a permis de mettre un pied dans le cinéma d'action. Crazy Bear avait tout pour être un divertissement vraiment décalé, et notamment un budget suffisamment confortable pour détonner visuellement. Les acteurs semblent s'amuser, ou alors ils font très bien semblant, et la réalisation, notamment sur certaines séquences d'action, est vraiment jouissive. Quel dommage, en revanche, que les scénaristes n'aient pas voulu aller trop loin dans l'humour noir et le politiquement incorrect. On sent que l'on n'a pas osé utiliser le plein potentiel comique de la drogue, et que la bien-pensance de Hollywood a poussé à modérer le propos. Il y a beaucoup d'invraisemblances également qui peuvent même être dangereuses dans le film. Sachez que si vous mangez de la cocaïne, même si vous la recrachez, vous allez être sérieusement défoncé hein, et vos gencives seront très attaquées. Or ici, les deux enfants mordent allègrement dans une grosse quantité de poudre blanche sans que cela change vraiment leur comportement, comme si le fait de ne pas l'avoir sniffé les avait préservés. À croire que les scénaristes hollywoodiens ignorent tout des effets de la drogue. On a un petit peu du mal à y croire.
Un ours barge !
Barge ?
Qui était ? Défoncé !
Hé ! Surveille ton langage !
Ce que l'on reproche au film, c'est qu'il refuse de glisser vers le stoner movie, c'est-à-dire ce sous-genre de la comédie popularisée par exemple par Las Vegas Parano ou The Big Lebowski, des films dans lesquels les personnages principaux sont dans un état second à cause de la prise de stupéfiants, créant des situations comiques sans que le film ne s'embarrasse d'aucune morale. Non, Crazy Beer, lui, préfère lisser son propos et creuser le bon vieux filon, à savoir les humains contre la vie sauvage. Une thématique particulièrement chérie par Hollywood dans les années 80 et 90, qui avait donné naissance à tout un tas de films dans lesquels des humains détruisaient la nature et s'étonnaient ensuite d'être attaqués par des animaux tels que Roar, Anaconda ou encore Peur Bleue. Crazy Beer, au final, c'est un film qui ne marquera pas forcément les esprits, mais qui fait son travail. On éclate assez peu de rire, mais on apprécie la très belle lumière, les cadres soignés et les personnages hauts en couleur.
C'est dingue ! Chut ! Quelle chance, la nature, ça nous réussit !
Crazy Beer est en salle depuis le 15 mars. Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Miles découvre rapidement qu'il a en réalité échoué sur la Terre. Mais il y a 65 millions d'années, nous en parlons, c'est le film 65, le gros blockbuster, en salle depuis le 15 mars.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Lieu inconnu.
Vol 373. Ici le commandant Mills. Mon vaisseau a été touché par un astéroïde non répertorié.
Lieu inconnu.
Il y a 35 passagers à bord.
Lieu inconnu.
C'est une mission d'exploration en espace lointain. Envoyez des secours.
Le duo derrière les scénarios de Sans un bruit 1 et 2, hein, tous deux réalisés par John Krasinski, ont visiblement donné des envies à Scott Beck et Brian Woods. Alors non pas que 65, La Terre d'avant, hein, soit leur premier film, puisqu'ils ont déjà essayé d'essuyer les plâtres avec Haunt en 2019, sorti uniquement sur Amazon Prime, mais parce que 65, La Terre d'avant, ressemble beaucoup à leur travail sur les Sans un bruit. Alors on y retrouve la même idée de gens normaux face à une situation extraordinaire, principalement dans un lieu reculé naturel, de les confronter à de grosses bébêtes véloces et carnassières, une jeune fille qui a du mal à communiquer avec son aîné et de manière plus générale d'essayer de composer un survival ou film de survie en bon français le plus réaliste possible malgré l'ingrédient de science-fiction primordial à chacune de ses intrigues. Et on va voir que dans le cas de 65, il est d'autant plus intéressant qu'il convoque tout un passé, alors à la fois littéraire et de cinéma, ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire.
Je m'appelle Mills, j'étais le pilote du vaisseau. Nous nous sommes écrasés sur une planète non répertoriée. Nous sommes les seuls survivants. J'ignore quelle est notre position. Mais il y a quelque chose ici. Une forme de vie alien.
Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années, donc qui se retrouvent tout à coup face à face. Qui aurait pu avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? Cette célébrissime phrase prononcée par Sam Neill dans Jurassic Park résume à peu près elle seule tout 65, La Terre d'avant. Il est effectivement question d'un homme, d'un homme et d'une jeune fille, qui, suite à un crash, vont être confrontés aux sauriens disparus depuis belle lurette. Sauf que, le plus de l'histoire, c'est justement ce jeu sur la temporalité. Alors, Beck et Woods jouent pleinement sur les possibilités d'une histoire de science-fiction en y convoquant l'un de ses plus illustres maîtres, à savoir Ray Bradbury et sa traumatisante nouvelle en coup de tonnerre, mais en retournant l'argument principal du temps. Alors comprenne qui pourra, car je veux pas tout dévoiler dans la chute du film et de la nouvelle, ni profondément l'intrigue du film dont il est question aujourd'hui. Alors après avoir cité un aussi fort argument d'autorité, il est quand même judicieux de redescendre de quelques étages. 65, La Terre d'avant n'est pas un grand film et ne restera pas spécialement dans les mémoires. On pourra lui reprocher sa modestie et un résultat moins spectaculaire que ses promesses. Mais ça serait du coup faire un faux procès au film, bien mal connaître ces deux auteurs que d'avoir pensé assister à un nouveau Jurassic World, et face à la nullité de ce qu'est devenu la saga initiée par le séminal film de Steven Spielberg, 65, la Terre d'avant, fait au contraire un minimum plaisir. Alors plaisir, hein, parce que du haut de ses 90 minutes très bien gérées, il cherche à construire un suspense progressif, crédible et palpable, au lieu de tout dynamiter sur l'autel du divertissement bas du front et Bigger Than Life. Alors oui, les apparitions des dinosaures sont limitées, mais c'est pour mieux les rendre plus percutantes et permettre à ces héros de gérer leur environnement.
On doit être discret.
Discret.
Et se déplacer. Je vais nous ramener à la maison.
Maison, famille.
Regarde-moi. Regarde-moi.
'65 est autant un hommage à la partie centrale, celle qui se passe sur Skull Island du King Kong originel de 1933, qu'à toutes les séries B du style L'Oasis des Tempêtes ou Le Sixième Continent, qui mélange allègrement Homo sapiens et dinosaures. Et la modestie de l'ensemble fait plaisir, surtout quand on pense au récent Survival Prey, qui lui s'étouffait dans le ridicule des situations et rendait impossible tout intérêt de progression de son héroïne face à une menace bien plus forte qu'elle.
65, la Terre d'avant, donc, est en salle depuis le 15 mars. Toi, tu as été déçu, Manu, parce que tu cherchais des dinosaures, justement. Hein.
Ah oui, moi, j'ai pas aimé du tout. Hein. J'ai trouvé ça même tout pourri. Hein. Je sais pas. Mais surtout, tout le côté niais du début, moi, ça m'a un peu fait halluciner. Je sais pas. J'ai eu l'impression de voir un film pour gamins et où j'attendais certaines choses qui n'arrivent jamais, en fait. Grosse déception. Hein. Et j'ai été le voir avec mon fils, hein, qui a eu le même sentiment.
Ouais. Bon, voilà. On a privilégié quand même la chronique qui était positive. Voilà. La semaine dernière, nous avions Un Varón. Voici à nouveau un film colombien, L'Éden d'Andrés Ramírez Pulido, avec deux adolescents entre rébellion et rédemption en Colombie.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama.
Je suis allergique.
L'Éden s'ouvre sur un prologue d'une très grande rigueur formelle entre stylisation et approche documentaire, qui s'apparente à un cauchemar au cœur des ténèbres. Alors deux adolescents livrés à eux-mêmes, El Momo et Eliu, sous drogue et alcool, s'apprêtent à commettre un meurtre. L'atmosphère funèbre et pesante est servie par un montage redéfinissant une temporalité insaisissable entre ellipses et durée des plans, faisant presque basculer le film dans un espace quasi surnaturel. Alors le film ne montre pas les deux jeunes hommes commettre le crime, suggéré en contre-champ par un plan presque horrifique dans un tunnel, convoquant donc le cinéma de genre. Le cinéaste s'attarde sur l'après, le cadavre gisant à côté de El Momo et Eliu, observant calmement leur acte insensé. Il ne laisse transparaître aucun affect, aucune émotion. La séquence d'une terrifiante âpreté fait froid dans le dos, début du long calvaire qu'ils vont traverser dans un film au titre équivoque, sinon ironique. L'Éden promis n'est pas ce havre de paix attendu, mais un centre de réinsertion aux méthodes musclées situé en pleine forêt équatoriale. Les adolescents survivent dans un endroit hostile, champ d'expérimentation dirigé par un personnage tyrannique mais sincère, Alvaro, épuisant les adolescents physiquement et psychologiquement. Alors ils sont amenés à réaliser des travaux forcés, exploitant les limites de leur capacité corporelle qui alternent avec des exercices thérapeutiques douteux, alors proches de certaines pratiques mystiques et ou sectaires. Avec une grande économie de moyens, le premier long métrage d'Andrés Ramírez Pulido jette un trouble dans cet univers violent à travers la figure ambivalente d'Alvaro, mi-tortionnaire, mi-éducateur, qui semble être investi d'une mission absurde, sauver ces jeunes d'eux-mêmes, les remettre dans le droit chemin pour ne pas finir comme lui. Alors la dimension abstraite quasi allégorique du film, contourner donc le réel sans pour autant s'emparer de la fiction, marque aussi les limites d'un film trop théorique pour captiver, nous laissant à distance des personnages. L'épilogue, tentative de s'extraire du dolorisme qui contamine le récit, paraît plaqué artificiel. Alors ces faiblesses sont compensées par la mise en scène inventive, attentive au cadre et à la lumière, créant toujours un climat oppressant et insolite. L'Éden reste une œuvre fascinante qui prouve la bonne santé du cinéma colombien, assez rarement diffusé dans nos contrées, après El Varón et bientôt Los Reyes del Mundo, cartographie lucide mais stimulante de la jeunesse en perdition dans un contexte politique et social marqué par l'abandon et les inégalités.
L'Éden est en salle depuis le 22 mars. Une jeune fille victime de l'emprise de son père qui en a fait sa femme. C'est le film d'Alva d'Emmanuel Nico et c'est l'interview de cette émission.
Qui est
êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Dalva, c'est le prénom d'une jeune fille qu'on arrache dès la première scène à son domicile et à son père qui était seul à l'élever. Cette figure paternelle, on la verra peu, hein, car la réalisatrice Emmanuelle Nico s'intéresse à son personnage féminin qui voit son univers s'écrouler. Un drôle d'univers, hein, qui nous est renvoyé par la manière qu'a Dalva de s'habiller, de se tenir. Alors elle a 12 ans, mais elle a une tenue d'une femme, hein, des talons de femme, un maquillage de femme, et elle le dit elle-même, ce n'est pas une jeune fille, mais une femme. Elle était sous l'emprise de son père et celui-ci donc l'a transformée en sa femme. La première séquence est un condensé de cinéma travaillant le son et le hors-champ tout comme la dramaturgie. Dalva crie de tout son corps qu'on ne l'éloigne pas de son père, figure absente de l'image. Alors une fois passé ce palier, Dalva est placée dans un centre d'accueil pour mineurs. Là-bas, si tous les enfants ont vécu des drames, hein, le sien semble à part et elle continue à se conduire comme elle s'est toujours conduite, hein, en femme dans un corps de jeune fille. De sa camarade de chambrée à l'éducateur interprété par un Alexis Mananti, vous savez le sale flic dans Les Misérables, qui lui est impeccable cette fois-ci, une médiation va opérer pour que Dalva réapparaisse au monde. Elle qui ne veut qu'une chose, revoir son père. Alors elle refuse de comprendre qu'elle a été victime d'inceste, de comprendre que son père l'a arrachée à sa mère et a tout fait pour l'isoler des autres, pour en faire sa créature. Le chemin de guérison de Dalva passe par un retour vers l'enfance, vers un refus du déni et vers l'acceptation des autres. La réalisatrice fait apparaître ce mécanisme avec élégance et rigueur. Alors j'ai un temps pensé que tout semblait presque trop facile pour Dalva de s'extirper des mécanismes de l'emprise, mais il faut admettre que c'est une fiction reposant sur une bonne base de documentaire et qu'en tant que fiction, eh bien, la réalisatrice peut se permettre de faire jouer des ellipses qui jouent en faveur de son personnage tant qu'elle ne trahit pas les mécanismes de la guérison. Et justement, nous avons rencontré Emmanuelle Nico, la réalisatrice de Dalva, qui nous parle notamment eh bien, de ses longs moments d'immersion dans des centres pour mineurs, ce qui lui a permis de bâtir son film.
Désolée, Miss, mais là, ça va pas être possible. Tu peux pas aller à l'école comme ça.
Pourquoi ?
Je suis pas une fille. Je suis une femme.
T'es pas encore une femme, Dalva.
Emmanuelle Nico, nous allons parler de Dalva, premier long métrage, et peut-être revenir finalement à l'origine de ce film, parce que le sujet, me semble-t-il, n'est pas si facile, n'est pas si courant dans le cinéma français.
C'est un film qui a commencé il y a 6 ans. J'ai passé 4 ans et demi à écrire le scénario et puis ça vient de mon inspiration vient de plusieurs choses. Déjà, il y a la question de l'emprise, qui est une question qui m'est assez personnelle, que j'ai déjà explorée dans différents courts-métrages auparavant, et là que j'avais vraiment envie d'explorer dans le lien parent-enfant. Ensuite, il y a eu l'univers des foyers que j'avais exploré aussi dans un précédent court-métrage et j'ai eu envie d'y retourner. J'ai fait une immersion dans un centre d'accueil d'urgence à Forbach, dans l'est de la France. Et là-bas, j'ai rencontré plusieurs enfants qui avaient tous pour point commun donc d'avoir été retirés de leur famille pour cause de maltraitance avérée. Et ces enfants étaient encore tous sous l'emprise de leurs parents. Et en fait, ils souffraient plus du fait d'avoir été placés que de ce qu'ils avaient vécu chez eux. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment un film à faire à ce moment-là, au tout début du placement. Et puis, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches auprès des éducateurs, des psychologues, des juges pour enfants. Et j'ai commencé à recueillir beaucoup d'histoires. Et il y en a une qui m'a particulièrement marquée, qui était celle d'un éducateur qui travaillait avec la police. Son travail, c'était d'aller chercher les enfants chez eux quand il y avait suspicion de maltraitance. Et un jour, il a été contacté pour aller chercher une petite fille de 6 ans qui vivait seule avec son père. Et il y avait une suspicion d'inceste. Et il s'est retrouvé face à une enfant qui était très sexuée, très sensuelle et qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui. Moi, je n'ai connu que ça de cette histoire. Et j'ai eu envie d'imaginer l'histoire de cette petite fille à 12 ans. Donc dans la préadolescence, à l'âge des premiers émois, de la puberté aussi. Et c'est comme ça que Dalva est née.
Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur ?
Je m'estime que tu seras mieux ici que chez toi.
Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre.
Est-ce que tu comprends pourquoi t'es là ?
Est-ce que vous avez fait une erreur ?
J'imagine que vous avez réfléchi longtemps à comment introduire ce sujet. On devine de quoi il s'agit. Vous le montrez vraiment avec, j'ai presque envie de dire, de l'image et du son. C'est-à-dire qu'il y a du hors-champ et après, on voit sa physionomie, enfin, on voit comment elle est habillée, on se doute de ce qu'il peut y avoir derrière.
C'est un film qui parle de reconstruction, de renaissance, de libération après une immense emprise. Et moi, j'avais envie, oui, de traiter la question de cette emprise de manière complètement souterraine, de la mettre sous l'iceberg et que la partie submergée de l'iceberg soit justement cette renaissance. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette histoire au moment de l'arrestation. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire une histoire qui ne soit que du point de vue de cette petite jeune fille de 12 ans qui comprend pas ce qui lui arrive au moment où la police débarque chez elle.
Je veux le voir, je veux rentrer à la maison.
Non, c'est pas possible.
On t'a retiré de chez ton père parce qu'on était très inquiets.
Arrête-toi !
Il y a cet éducateur qui est très important. C'est le personnage presque clé de cette histoire.
Oui, je pense que c'est un des personnages clés de cette histoire, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Je pense que si Dalva parvient à se reconstruire petit à petit, c'est grâce aussi au puzzle que lui offre ce foyer, au cadre aussi que lui offre cet endroit.
Pourquoi t'es là, toi ?
Je sais pas.
Elle est bien, ta robe. Ça fait classe.
Il y a aussi, on va dire, sa camarade de chambrée. Alors, elle est importante pour la construction de cette jeune fille, parce qu'elle dit au bout d'un moment, quand Dalva s'intéresse à ses camarades de classe, elle dit... Eux, ils sont normaux, on ne sera jamais comme eux. Il y a cette espèce d'idée que c'est quelque chose d'inatteignable quand on est dans ce foyer. Or, votre film questionne même cette position-là.
Oui, c'est clair. En tout cas, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a un fossé entre les enfants des foyers et les enfants qui ne sont pas des enfants placés, juste parce qu'ils ont vécu des choses très jeunes qui n'ont tellement pas à vivre. Il y a une espèce de maturité chez eux qui est incroyable. C'est des petits adultes qui sont dans des corps d'enfants. Et ce dont j'ai voulu aussi parler, c'est que moi, ce que j'ai remarqué dans ces foyers, c'est qu'il y a une solidarité entre les enfants et un amour qui est incroyable. La question de la cruauté qu'il y a beaucoup chez les jeunes dans les collèges, c'est quelque chose que moi, j'ai pas connu, en tout cas, dans les foyers. Et... Il y a ce truc de non-jugement, en tout cas, qui existe et qui est fabuleux chez ces gosses qui sont pourtant si jeunes et qui, quelque part, ont intégré en eux déjà la complexité de la vie.
J'ai peur d'être toute seule. Puis ne plus jamais être importante pour personne.
C'était Emmanuelle Nico, la réalisatrice de Dalva, un film en salle depuis le 22 mars. Sixième long métrage de Joanna Hogg qui permet de voir l'excellente Tilda Swinton. Nous parlons de Eternal Daughter, soit la fille éternelle.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Le dernier du studio A24 est arrivé et il arrive après une déferlante, car 2023 semble être l'année dorée parmi toutes pour la structure atypique qui a su se faire un nom avec ses choix de production parfois audacieux. Car nous venons de fêter la consécration de deux gros titres de leur catalogue. D'un côté, le foutraque mais ultra sympathique et inventif Everything Everywhere All At Once, qui vient de rafler pas moins de 7 Oscars. Et l'excellent, anxiogène et tout aussi émouvant quasi huis clos The Whale de Darren Aronofsky, qui voit son interprète principal, Brendan Fraser, obtenir les plus prestigieuses récompenses dans le monde entier. Alors que faire après deux tels mastodontes, et dont la grande popularité, surtout pour Everything, n'était pas forcément vraiment prévue? Eh bien, continuer d'explorer un filon que la firme connaît bien, et qui coche ici toutes les cases déjà bien explorées par divers de ses auteurs. Alors petit budget, unité de lieu, casting minimaliste, filtre sur l'image, et réflexion dépressive sur le temps, tout est là pour nous balader en terre connue, si ce n'est la participation de Martin Scorsese à l'entreprise en tant que producteur exécutif, ce qui éveille forcément encore plus notre attention.
Mom, we're here.
We'd like to check in, please.
L'affiche nous fait clairement comprendre ce qui a dû séduire Scorsese dans la proposition de la réalisatrice et scénariste Joanna Hogg, qui lui a conseillé plusieurs lectures de romans fantastiques anglais, y compris They de Rudyard Kipling, que l'on retrouve cité littéralement à l'écran. Alors on y voit Tilda Swinton, qui joue ici deux rôles, celui de l'héroïne et de sa mère, descendre un vieil escalier à la rambarde proéminente. On pense forcément à celle de Demain la nuit ou The Spiral Staircase de Robert Siodmak, tout autant que l'imagerie développée dedans. Autre film adoré par Scorsese et sûrement pas innocent pour Eternal Daughter, ben on pense également à La Falaise Mystérieuse ou The Uninvited de Lewis Allen, avec lui aussi un usage très très limité des effets spéciaux pour suggérer le fantastique. Mais ce qui se passe dans les pièces et les couloirs dans lesquels évoluent l'héroïne et sa mère lorgne terriblement du côté du chef-d'œuvre absolu Les Innocents de Jack Layton, et de manière plus générale sur toute une imagerie du film gothique anglais. L'hôtel désert, les visions, le jeu permanent entre la réalité et l'illusion, les cadres la plupart du temps fixes et le tenancier qui a la même bonhomie que Dick Halloran, hein, nous fait bien aussi bien évidemment penser à l'adaptation de The Shining de Stephen King par Stanley Kubrick. Le décor, la famille, le temps qui passe et, on le comprend assez vite, hein, une réflexion sur le deuil hein, ne suffit toutefois pas à transcender ces modèles imposants, mais tout simplement à s'imposer à la force de sa proposition. Eternal Daughter, hein, contrairement aux œuvres modèles et précitées, use d'un rythme très lacunaire qui se révèle contre-productif, surtout quand on attend la fin hein, pour avoir la confirmation de ce que nous avions deviné dès le premier quart d'heure, en attendant qu'il soit confirmé. L'usage voulu et assumé hein, du champ contre champ pour unique peinture de l'héroïne et de sa mère, les condamnant à être tout le temps séparés à l'écran, est une fausse bonne idée, et même s'il nous offre deux fois plus de bonnes performances de Tilda Swinton, plombe un ensemble qui croule sous la lourdeur d'un procédé pourtant limpide et simple à la base. C'est franchement dommage. Proche de A Ghost Story de David Lowery et aussi produit par A24, l'imparfait mais lui très attachant film de fantôme qui utilise les ectoplasmes comme borne pour figurer le temps qui passe, Eternal Daughter comporte toutes les tares à déplorer par ceux qui n'étaient pas convaincus par la proposition du studio à ses tout débuts, dont moi. Bon, ce faux retour aux sources, hein, après une variation appréciable de ses propositions cinématographiques, n'est donc pas vraiment enthousiasmant, car il en faut quand même plus pour créer une véritable ambiance mémorable.
Happy birthday, Mom. To us.
Eternal Daughter est en salle depuis le 22 mars. Film confidentiel, hein, à peine deux cinémas qui le projettent. Mais toi, Manu, tu as été enthousiasmé par ce film. C'est Holly Amy.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Le sujet de Holly Amy n'est pas neuf. Hein. Éprouver le passage adulte d'une adolescente introvertie à travers le filtre du surnaturel, soit un pouvoir qui la rend unique aux yeux des autres, alors pour le meilleur et pour le pire. La cinéaste Araceli Lemos hein, parvient à renouveler intelligemment une thématique convenue. L'ancrage pertinent du fantastique, hein, simultanément frontal et fuyant, est d'une part présente dès le début par les saignements des yeux d'Amy, hein, lointaine cousine de Carrie, et d'autre part absent ou alors tout en nuance par le mystère qui entoure les pouvoirs réels de la jeune femme. La jeune adolescente même. Amy est un beau personnage de cinéma à la présence tantôt fragile, tantôt inquiétante. Elle n'est pas la seule à vivre un changement dans sa vie. Sa sœur Teresa aussi, puisqu'elle tombe enceinte d'un type guère fréquentable. Toutes deux immigrées philippines, l'action est située en Grèce. Hein, vivent loin de leur mère, hein, contraintes de retourner au pays pour des raisons de santé mentale. Elles mènent une existence tranquille au sein de leur communauté catholique dans la ville d'Athènes. Mais Amy est de plus en plus attirée par des forces mystérieuses qui vont peu à peut chambouler son esprit et sa manière de voir les autres autour d'elle. Araceli Lemos, hein, dont il s'agit du premier long métrage, dresse le portrait saisissant d'une préadulte qui se trouve confrontée à un monde cruel dans lequel elle va se poser cette question clé. Que faire de ce don ? L'utiliser pour le bien de la communauté ou au contraire punir ceux qui le méritent ? Alors punir ou guérir, hein. La cinéaste enchaîne les séquences fortes, telles ces femmes enceintes à l'entrée de l'hôpital qui s'écroulent comme des mouches, ou ce terrifiant repas où le petit ami de Teresa s'étouffe avec une arête de poisson sous le regard presque diabolique de Amy, antithèse perturbant de son regard originel en Fantin. Alors la réussite de Holly Amy tient à sa mise en scène, sobre et sophistiquée, privilégiant les plans d'ensemble très composés, redéfinissant habilement un espace géographique et narratif, procurant des sensations très variées, de la douceur à la terreur. Au diapason de l'héroïne, délicieusement schizophrénique, la mise en scène, est donc au service du récit, sachant se faire très discrète quand il faut, mais aussi plus démonstrative et viscérale par moments, rupture formelle qui met en valeur les séquences choc. Alors entre mysticisme et réalisme, digression à la Cronenberg, parfois on pense à Faux-Semblant, et critique du poids de la religion, Holly Amy est un beau film, imparfait, certes, mais singulier et fort, qui laisse donc espérer beaucoup par la suite de sa jeune cinéaste.
Holly Amy est en salle depuis le 22 mars, mais dans très peu de cinéma, donc...
Ce qui me paraît étonnant. Je trouve qu'il y a des films beaucoup plus arides et difficiles d'accès que celui-là. C'est quand même un film de genre, quelque part. Mm. C'est curieux. C'est assez curieux.
Il sera peut-être bon bien d'attendre de le voir sur une plateforme dans quelques temps.
Alors,
c'est fini l'heure des visites. On va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message. Adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai.
Ça se termine toujours comme ça. Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau film colombien pour toi, Manu.
Et oui, Los Reyes del Mundo. Et puis, je vous parlerai de Les Apaches.
Et puis toi, Guillaume, un film ?
Moi, le retour très en forme de Stephen Frears pour The Lost King.
Et nous aurons à nouveau une interview, celle de Judith Herry, réalisatrice de Je verrai toujours vos visages. Et on aura le plaisir aussi d'entendre Elodie Boucher, ce que j'ai pu rencontrer. À la semaine prochaine.
Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors ?
Et alors ? Eh ben, on bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein ? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends ? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois !
This is Cinerama.